en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est un petit livre, il fait à peine 110 pages, mais c'est un grand livre par sa force, par son style, sec comme un coup de trique. Pas besoin de beaucoup de mots quand ils sont choisis avec autant de soin pour dire ce que la guerre fait aux hommes, comment elle peut dissoudre l'humanité comme de la soude caustique. Personne n'est nommé, ni les personnages, ni les lieux, ni l'époque, ni l'ennemi, mais tout le monde est concerné par l'absurdité de la guerre et l'abjection de la torture. En 2021, Émilienne Malfatto, photographe, journaliste, romancière, faisait coup double le Goncourt du premier roman pour son livre Que sur toi se lamente le tigre et le prix Albert Londres pour Les serpents viendront pour toi. La voici de retour avec un huis clos glaçant, Le colonel ne dort pas. Le livre est paru aux éditions du Sous-sol et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Émilienne Malfatto.
Bonjour.
Ça se passe d'ailleurs dans un sous-sol, dans le sous-sol du quartier des Tanneurs. Ouais. Et quand le colonel descend dans ce sous-sol, il a l'impression de descendre lui-même. C'est l'expression que vous utilisez. Et c'est là qu'il arrache des réponses. Le mot « arrache » est en italique et il veut bien dire ce qu'il veut dire. Le colonel transforme les hommes en choses chiens écorchés. Là aussi, ce sont vos mots. On sent vraiment d'un bout à l'autre du roman à quel point les mots sont choisis avec soin. Vous écrivez avec un trébuchet, Émilienne Malfatto.
Merci beaucoup.
Mais certains d'entre eux sont d'ailleurs en italique.
Ouais.
Je le disais, comment les avez-vous choisis, justement, ces mots en italique qui tout de suite donnent du relief, même visuellement parlant, au sein de la page ou d'un paragraphe?
Alors, en fait, précisément, je ne les ai pas choisis. Parce que quand il s'agit de la fiction, j'ai une écriture qui est extrêmement instinctive, extrêmement pulsionnelle. Et je pense que c'est une réponse très décevante.
Donc, c'est le contraire de ce que je viens de dire. En fait, vous n'écrivez pas en pesant chacun de vos mots au trébuchet.
Ouais.
Ça vous vient comme ça naturellement.
Ouais,
c'est extraordinaire.
Ah ben non, mais c'est encore mieux. C'est cathartique.
Ça veut dire que vous les aviez en vous, ces mots, et qu'ils ont besoin de sortir comme ça quand vous vous mettez devant votre page blanche?
Je pense, parce que le premier bouquin, enfin, le tigre, est venu comme ça aussi. Avec vraiment quelque chose, vraiment une pulsion. Et c'est instinctif, c'est rapide, c'est cathartique, il faut que ça sorte. C'est quasiment vomitif, quoi. C'est l'impression d'accoucher de quelque chose. Donc non, il n'y a pas de choix. Enfin, en tout cas, moi, consciemment, je ne choisis pas.
Et quand vous avez terminé l'écriture, vous vous sentez mieux, alors, pour le coup?
Oui.
Il y a un besoin d'écrire, il y a un besoin que les mots sortent, il y a un besoin que ces mots-là, vous les partagiez avec vos lecteurs.
Je ne sais même pas si à ce stade-là, il y a un besoin de partager. Je pense que c'est un processus très égoïste, en fait, où il faut que ça sorte. Et quelque part, ensuite, on voit ce qu'on en fait. Mais c'est très égoïste, en fait, je pense.
Alors, ça me surprend beaucoup. Et en même temps, c'est encore mieux quand on y pense. Alors, justement, ces mots en italique, j'en ai noté quelques-uns. En particulier, les mots qui parlent du colonel, hein, donc de ceux qui l'entourent et de ce qu'il fait. Il y a le mot spécialiste. Le mot revient à plusieurs reprises. Il y a le mot travail, le mot collaborateur, au pluriel. Le mot travailler, il travaille tout court. Hein, il travaille les gens. Aussi, ce colonel, il est très présent d'ailleurs, ce champ lexical du travail. C'est comme ça qu'il conçoit son rôle, le colonel. C'est d'abord un travail, ce qu'il fait.
C'est d'abord un travail, je pense. Et c'est un travail comme ça a été et comme c'est un travail pour un certain nombre de tortionnaires, dans un certain nombre de régimes, de dictatures, enfin... C'est en exergue du livre, il y a la citation de Pierre Messmer. Et enfin, faut pas oublier l'école des Amériques, faut pas oublier tout ça.
Donc Pierre Messmer, ancien ministre de la Défense et ancien premier ministre français, et cette citation, je vais la retrouver. Donc à propos du général Paul Ossarès, hein, qui a torturé en Algérie, c'était un spécialiste. Voilà, c'est les trois mots que...
Et qui est parti enseigner aux États-Unis. Et ensuite, toute cette belle connaissance française a été disséminée, notamment via les États-Unis, à travers toute l'Amérique latine, dans toutes les dictatures, où c'était un travail, pas seulement en Amérique latine, mais il y a cette idée où la torture est un travail.
Donc le colonel torture par devoir. Il n'aime pas particulièrement ça, il ressent pas particulièrement de plaisir. Mais
c'est pas un sadique.
Non, mais il aime le travail bien fait, quoi, d'une certaine façon. On peut dire ça comme ça. Ça veut dire que quand il torture, il n'y a pas de place pour le doute?
Ouf. Je sais pas. Je sais pas du tout. Peut-être que les passages en italique sont la partie de doute, mais étant donné que ses passages en Italie représentent un peu sa nuit, représentent un peu la nuit. Est-ce qu'on peut supposer qu'il ne doute pas pendant la journée ? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. J'ai du mal, moi aussi, à le cerner, ce colonel.
Pourtant, il ne dort pas, donc ce colonel. Dès le titre, on le sait. Car la nuit, ses victimes se rappellent à son souvenir. On le sait d'ailleurs dès les toutes premières lignes du roman, qui commence un peu comme un poème. Et le livre alterne, comme ça, des courts chapitres en vers qui nous plongent dans la tête du colonel et des chapitres en prose avec un narrateur ou une narratrice externe qui raconte à la troisième personne de façon assez froide, de façon assez clinique. Pourquoi cette alternance ? Pourquoi vous avez choisi justement de jouer sur ces deux formes littéraires-là avec à chaque fois des formats assez courts ?
Mais j'ai pas choisi non plus. Non, mais c'est terrible. Mais la forme, elle s'est imposée comme ça, en fait. Et les passages en italique...
Le colonel ne pouvait pas écrire en prose.
Je pense que le colonel ne pouvait pas écrire en prose, non. Mais, et ça a commencé, enfin, le livre a été écrit, il n'y a pas eu d'aller-retour, donc ça a commencé. Les premières lignes qui ont été écrites ont été les lignes en vert, quoi. Du tout premier chapitre, comme ça. Donc la forme était vraiment comme ça depuis le début. Il n'y en a pas eu d'autre.
Et vous n'avez jamais eu l'idée de faire tout le livre en vous mettant dans la tête du colonel, de dire « je » de la première à la dernière ligne ?
Non, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Je ne sais pas si ça serait trop étouffant ou pas du tout, ou peut-être pas. Enfin, en tout cas, ça serait un autre livre, quoi.
Mais alors, comment vous vous êtes mis dans la tête de ce colonel le temps, justement, de ces quelques chapitres en vers ?
C'est étrange, mais la voix, à un moment, elle est là, en fait. Enfin, je vais avoir l'air schizophrène. Je ne suis pas schizophrène. Enfin, a priori. Mais c'est comme si la voix, elle était là. Enfin, c'est comme si le texte, il était déjà écrit. Et c'est cette espèce d'état d'écriture qui, donc, arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, c'est bref et intense. C'est un peu comme un état second où je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Il y a quelque chose qui traverse. Et donc la voix du colonel, elle était déjà là, en fait. C'est comme si le colonel, c'est comme si le colonel avait un peu envahi ma tête pendant quelques jours, quoi.
Nous sommes à la page 47 de votre roman.
Vous voilà, les hommes poissons. Vous, mon pire cauchemar, le pire de tous. Pourtant, je ne vous ai pas brisé, je n'ai pas déconstruit votre corps avec méthode, comme je l'ai fait pour tant d'autres, comme je continue à le faire, puisque c'est mon métier. On ne choisit pas son métier. Mais on peut en refuser un, me direz-vous. Mais après vous, les hommes poissons, qu'avais-je à perdre ? Puisque le sort était déjà jeté, puisque vous alliez revenir me hanter, blanchâtre et gonflé d'eau vaseuse. C'est ainsi que je me rappelle de vous, que vous êtes resté derrière mes paupières, dans ma tête. Si je m'arrachais les paupières et les yeux, vous seriez encore là. Vous tapissez les recoins de mon crâne, vous êtes ma torture sans fin. Pouvait-il savoir ce soir-là, pouvait-il savoir cet adjudant quand il m'a dit « c'est à toi, c'est ton tour d'abaisser la manette ». Pouvait-il savoir qu'il me condamnait à vous, mes hommes poissons ? Est-ce que d'autres hommes poissons le hantent lui aussi ? Ce ne serait que justice, puisque c'est lui qui, ce soir-là, qui me dit « c'est à toi, c'est ton tour, c'est la guerre ». Et j'abaissais la manette et il y eut comme un frisson, un grésillement autour de nous. Toute l'eau parcourue d'une onde, cette eau à l'infini, cet horizon plat de marécage dans lequel nous avions disposé toute la journée durant, disposé de gros câbles noirs, comme un filet, comme une nasse pour attraper les hommes, pour pêcher les hommes. L'ennemi qui avance dans le marécage et j'abaisse la manette, le filet se referme sur vous, vous, mes hommes poissons. Le marais devenu mort, la fée électricité... Et quand ce fut fini, quand l'adjudant me fit relever la manette, voilà, soldat, voilà comment on remporte une victoire sur l'ennemi.
Alors, on a l'impression d'un cauchemar, mais ce n'est pas un cauchemar, puisque, répétons-le, le colonel ne dort pas. C'est même le titre du livre Emilienne Malfatto. C'en est peut-être d'autant plus terrible. Alors, vous allez me dire que c'est arrivé naturellement et que vous n'êtes pas posé la question, mais je suis obligé de vous poser la question, moi, pour le coup. Comment vous est venue la métaphore des hommes-poissons ?
Alors, la métaphore des hommes-poissons, elle est venue avant l'écriture du livre, quelques mois avant. Et pour le coup, elle est liée à une anecdote, sur laquelle je ne vais pas m'étendre ici, mais à une anecdote dont on m'a parlé, qui s'est réellement produite.
en lien avec la torture, en lien avec la guerre.
Voilà, en lien avec la guerre. Et c'est resté, en fait, ça. Il y a eu un truc, quelque chose, je ne sais pas. Ça a fait clic à un endroit où ça a germé. Et je pense d'ailleurs que le livre, que l'écriture du livre est née, en fait, avec plusieurs mois de, je sais pas, de maturation, de fermentation inconsciente, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais en tout cas, il y a eu Les Hommes-Poissons. Et je ne sais pas, 6 mois après, il y a eu Le Colonel.
Alors, on l'a dit, hein, ce colonel, il n'a pas de nom, on ne sait pas où il est, on ne sait pas. On sait qu'on est dans un pays en guerre, hein, dans une ville entre brume et pluie, mais on ne sait pas quel pays, on ne sait pas quelle ville, on ne sait pas si on est à notre époque, on ne sait pas si on est demain, hier. Et pourtant, mais c'est ça aussi qui rend le texte d'autant plus fort, d'autant plus universel. Le livre pourrait se passer pendant la guerre d'Algérie, on parlait du général Ossarès il y a un instant, pourrait se passer dans l'Ukraine d'aujourd'hui, peut-être, dans n'importe quelle guerre sur n'importe quel autre continent. Mais vous avez été, vous, reporter en Irak. Vous en avez d'ailleurs tiré ce livre que j'ai cité en introduction. Est-ce que c'est de ce séjour irakien qu'est né Le Colonel ne dort pas?
Alors, pas spécifiquement, enfin pas directement. Après, il est certain que qu'être reporter de guerre et vivre une guerre, puisque moi j'ai vécu dans le nord de l'Irak, enfin, j'y ai vraiment habité, ça laisse des traces. C'est pas neutre, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, pas forcément physiques. Donc, oui, je pense qu'il n'y aurait pas forcément cette écriture-là s'il n'y avait pas eu l'Irak à un moment. Mais il y a plein d'autres choses qui entrent en ligne de compte.
Est-ce que vous avez assisté vous-même à des séances de torture?
Non.
Est-ce qu'on vous en a raconté?
Dans une certaine mesure, oui.
Comment ça, dans une certaine mesure?
C'est-à-dire pas forcément dans les détails qu'on peut imaginer. Mais oui, c'est des thèmes qui ont pu être abordés, mais...
Par les victimes ou par les bourreaux?
Non, par les victimes. J'ai jamais eu de bourreau qui me raconte ce qu'il avait fait.
Et pourquoi vous avez voulu écrire en vous plaçant du côté du bourreau, finalement? Parce que les victimes... On les évoque, forcément, mais en creux, uniquement.
Complètement, ouais. Alors, encore une fois, je n'ai pas choisi, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je ne sais pas, je pense que j'ai une curiosité pour la part d'ombre qu'il y a dans l'homme, quoi. Et comment on en arrive à ça, enfin... Je ne sais pas, c'est...
Est-ce que la journaliste que vous êtes serait plus intéressée par les victimes et la romancière plus intéressée par le bourreau?
Je sais pas, je pense qu'en tant que journaliste, ça m'intéresserait aussi de dire, ok, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pas forcément dans les détails gore, mais plus qu'est-ce que ça fait de faire ça. Enfin, il y a un documentaire et un livre d'ailleurs de Marie-Monique Robin qui s'appelle, je crois, Les Escadrons de la Mort, l'école française, ou l'école de la torture, l'école française, où elle interviewe des militaires de la dernière dictature argentine, la dictature de 76 à 82. Et les mecs, ils sont là, ils disent non, mais ok. Enfin, ils s'expriment, quoi. Et c'est un peu fou quand on y pense de dire. Enfin, de dire, voilà, il y a des gens qui vivent avec ça et qui, le soir, rentrent chez eux et...
Et qui dorment.
Et qui dorment, en fait, voilà. Et peut-être que, bon, celui-là, il dort pas, mais... En tout cas, moi, ça m'interpelle.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Emilienne Malfatto qui publie Le Colonel ne dort pas aux éditions du Sous-Sol, et à côté du colonel et de ses hommes-poissons, il y a deux autres personnages, deux autres militaires qui gravitent autour de lui. Il y a le général... Et l'ordonnance. Alors l'ordonnance suit le colonel, comme c'est d'ailleurs son devoir. Lui ne torture pas, il reste dans l'ombre et il regarde la chose. C'est l'expression que vous utilisez. Nous sommes à la page 54.
Récemment, l'ordonnance s'est rendu compte qu'il ne parvenait pas à saisir le visage du colonel. Bien sûr, il le connaît, le reconnaît. Il sait immédiatement que c'est lui, garde à vous. Mais il lui est impossible, après, de revoir ses traits comme s'ils se dérobaient, comme s'ils étaient faits de fumée. Comme dans ses rêves, car l'ordonnance rêve encore, où des visages d'hommes lui échappent, bien qu'il sache qui ils sont avec cette certitude absurde et absolue propre au songe. Encore une pensée parasite, se dit-il. Mais il ne peut s'empêcher de craindre que le colonel soit quelque part contagieux. Ces choses-là ne se disent pas, encore moins à l'armée. Essayez donc d'expliquer à votre supérieur qu'un gradé est en train de flouter les êtres et les choses autour de lui, de rendre le monde brumeux, de ramollir les opérations. Un coup à finir au mitard, ou en première ligne, ou pire, dans le cercle de lumière. Pour autant, l'ordonnance n'envisage pas à aucun moment de demander une réaffectation. En cette période de reconquête, rares sont ceux qui osent réclamer un changement, protester. Les fous qui s'y risquent ne durent pas longtemps, et l'ordonnance est, au fond, un lâche qui tient à la vie, même si de plus en plus, il a l'impression d'avoir déjà trop vécu.
L'ordonnance figure de la lâcheté, Emilienne Malfatto. Alors cette séquence, elle m'a fait penser à Shakespeare dans Jules César et cette phrase « Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort ». Et c'est vrai qu'en vous lisant, on se dit que tous vos personnages sont morts, même s'ils sont encore en vie.
Voilà, grosse ambiance.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors le général, lui aussi, il est passé de l'autre côté, d'une certaine façon, ouais. puisqu'il a perdu la raison. Ouais. Voilà, il est seul dans son bureau, dans ce palais qui prend l'eau. Il pense aux fuites d'eau du plafond. Il joue aux échecs avec lui-même. C'est un personnage de fantôme que vous avez campé à travers lui.
C'est un personnage... Alors, moi, le général, c'est un personnage que j'aime bien. D'abord parce que pour le coup, le personnage du général me rappelle certains militaires que j'ai pu croiser sur certains terrains. Alors évidemment, ils n'étaient pas fous, mais avec ce côté, je ne sais pas, il y a quelque chose. Pour moi, le général, il évoque certains visages. Et puis le général, c'est un peu une touche de réalisme magique. Et moi, j'aime bien le réalisme magique.
L'absurdité de la guerre, Emilienne Malfatto, c'est aussi ce que l'on retient quand on referme le livre. On pense à la torture, mais on pense aussi à la guerre dans son ensemble. Est-ce que vous l'avez ressenti vous-même sur le terrain, cette absurdité de la guerre? C'est d'une tarte à la crème quand on parle d'absurdité de la guerre, ou c'est vraiment le mot juste?
C'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile à dire, parce que la réponse, c'est oui et non. Enfin... Je crois que c'est Baricot à la fin, dans le postface de Homère Iliade, qui... Alors, je ne me rappelle plus très bien, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, où il dit qu'en gros, la guerre, c'est quelque chose d'absolument anormal. Enfin, je veux dire, c'est anormal pour l'humain, ça détruit l'humain, c'est... Voilà, je pense que l'homme n'est pas fait pour la guerre, et néanmoins de dire, mais ça fait des millénaires et les hommes continuent à se faire la guerre. Donc, il y a quelque chose... Enfin, clairement, il y a un truc, quoi. Je veux dire, c'est pas... Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est Eros et Thanatos, je sais pas, mais en tout cas, il y a un nœud, non, je veux dire, de dire, bah, on continue. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de très absurde dans les guerres. Et en même temps, on peut dire non, enfin, et en même temps, je sais pas, il faudrait distinguer certaines causes pour lesquelles la lutte armée peut être légitime. Après, la question est de dire qui place la barrière. Enfin, je veux dire, à partir de quel moment on dit, voilà, c'est légitime pour qui, c'est légitime pourquoi, et chacun... Enfin, je veux dire, j'imagine que pour les djihadistes de l'État islamique, c'était parfaitement légitime de faire ce qu'ils faisaient. Donc après, il y a une espèce de question de subjectivité. En tout cas, je me permettrai pas d'apporter une réponse totale, mais il y a quelque chose d'absurde, oui, là-dedans, de dire, bah, voilà, c'est détruire... C'est détruire, en fait, c'est détruire. Mais visiblement, l'homme aime bien détruire, puisqu'on détruit aussi notre environnement avec un certain acharnement. Donc, il y a quelque chose d'assez noir, quoi, dans l'humain.
On est dans un huis clos, aussi, dans ce roman. Il y a un côté Buzzati, un côté désert des Tartares aussi. On a l'impression qu'ils sont assiégés, on a l'impression qu'ils sont pris au piège par la monstruosité de la guerre, par leur propre monstruosité aussi, peut-être. Vos personnages, le général, l'ordonnance, le colonel... Ce sont tous des coupables ou ce sont aussi des victimes?
Pour moi, ce sont les deux. Mais je fais un petit flashback. De la même manière que dans mon premier roman, le livre sur l'Irak, il y a le personnage du frère assassin, du frère qui va tuer. Moi, je pense que c'est mon personnage préféré. Enfin, celui pour lequel j'ai le plus d'empathie, en tout cas, et qui est le bourreau, qui est celui qui va tuer, mais qui est complètement une victime. Ce que je trouve intéressant, c'est d'arriver à essayer de voir Ok, on est, enfin, et encore une fois, sans tomber dans une absolue relativité, mais de dire il y a un système autour et on y est, et les coupables, il faut voir aussi dans quel système ils évoluent.
Vous avez de l'empathie pour le colonel?
Je suis pas sûre d'avoir de l'empathie. Mais quand il dit, enfin quand il raconte, par exemple, que c'était pas forcément ça qu'il voulait, qu'il s'est retrouvé pris dans un engrenage, ouais, en ça c'est une victime parce que, enfin je sais pas s'il y a des enfants qui se disent, ben moi plus tard quand je serai grand je serai un salopard quoi. Enfin peut-être qu'il y en a et que je suis juste pas assez pessimiste pour le voir, mais en tout cas je préfère penser qu'à la base l'humain est pas capable de ça et que c'est plutôt les systèmes qui font ça. Après peut-être que j'ai une vision très relative et très naïve de l'humanité.
Merci, merci beaucoup Emilienne Malfatto. Le colonel ne dort pas, paru aux éditions du Sous-Sol.
Merci.
I Love You, le nouveau titre du boss Bruce Springsteen, extrait de son prochain album, une série de reprises de joyaux de la soul music américaine, sortie prévue le 11 novembre.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et dans le café gourmand cette semaine, une goutte de champagne et une goutte de bière pour vous, Marjorie Bertin. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Un soupçon de noix de muscade et de cannelle pour vous, Jean-Jacques Héry, puisque vous êtes à Bruxelles. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Et pour vous, Amélie Beaucourt, un chiquette chicorée. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans le Schnorr.
Quoi?
Un chiquette. Un petit un peu chiquette de. Non
chicorée.
Chicorée,
chicorée,
ça chicorée, oui, ça c'est le café du Nord, on est d'accord.
Chiquette, c'est quoi? Un poulicrot?
Un petit peu, un petit peu.
Oui. Ah, une chiquette.
Une chiquette chicorée.
Ok.
Alors vous l'avez compris, hein, c'est clairement vers le nord que nous allons porter nos yeux et nos oreilles cette semaine. On va donc aller avec vous à Bruxelles découvrir, Jean-Jacques, le travail d'une plasticienne franco-gabonaise qui s'appelle Myria Mindou.
Oui, pour découvrir une expérience immersive sur la matière où le visiteur rencontre physiquement l'œuvre qu'il découvre, libre à lui d'y faire vagabonder ses sens pour à la fois se sentir vivant et en même temps donner à l'œuvre tout son sens.
Et c'est à la Verrière, la fondation d'entreprise Hermès, à Bruxelles. Donc la Belgique toujours avec vous, Marjorie, vous allez nous présenter un album posthume, celui du chanteur belge Arnaud, il s'appelle Opex.
Et oui, puisque l'auteur-compositeur à la voix grave et à la gouaille ravageuse est mort d'un cancer le 23 avril dernier, il venait d'achever cet album, Un chant du cygne, émouvant et jouissif, dont ses proches ont accepté de me parler.
Je vous ai amené tous les deux jusqu'ici. Tu dois payer.
Ma mère en a vraiment besoin.
Donne tes 100 euros à Justine.
T'inquiète, va. Il y en a 10.
Je t'ai dit que dès que j'aurai mes papiers, je ferai la formation d'aide ménagère.
Tu veux des faux papiers ? Je te trouve direct une solution. Maintenant, tu discutes.
On pourra au moins se voir le dimanche.
Non.
Et comment on va faire pour envoyer de l'argent à notre maman ?
C'est pas mes Saint-Clair, allez-y !
Comment je vais faire, moi, pour appeler mon frère ?
Tais-toi, ferme la porte.
Chaque fois que tu dis « je veux », tu reçois ça.
Arrête !
Mais Tim, tu m'entends ? Pourquoi moi et mon frère, on peut pas se parler au téléphone ?
Elle est où, Lokita ?
Faut pas jouer au malin.
Je joue pas au malin.
On reste ensemble. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sorti.
Alors vous l'avez compris, il s'agit évidemment d'une bande-annonce d'un film, en l'occurrence la bande-annonce de Tori et Lokita. C'est le dernier film des frères Dardenne, un célèbre duo de cinéastes belges, multiprimé à Cannes, et notamment donc pour ce long métrage cette année, Amélie, un film qui raconte l'amitié entre deux enfants.
Mais pas n'importe quels enfants, vous l'avez peut-être compris dans la bande-annonce, des enfants Mena. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça veut dire, Mena ?
Pas du tout.
C'est un sigle ?
Oui, exactement. Mena, ça veut dire mineur, étranger, non accompagné. Tori et Lokita sont des enfants donc exilés, venus en Europe sans leurs parents ou sans adultes mandataires. Lui, il a 12 ans, elle en a 16 et ils vivent dans le même foyer en Belgique. Ces enfants, Mena, on estime qu'il en arrive entre 5 et 20 chaque jour en Belgique. En tout cas, ça se sont pour les signalements, donc ils seraient en fait beaucoup plus nombreux. Et c'est leur destin tragique qui a attiré le duo de cinéastes qu'on connaît pour leurs films très engagés, un cinéma social, humain. Jean-Pierre Dardenne, le plus âgé des deux frères, vous ne le saviez peut-être pas,
et non,
m'a raconté avoir eu l'idée du film suite à un article de presse qui racontait que régulièrement, ces mineurs disparaissaient mystérieusement.
Certains retournent dans leur pays, d'autres ne faisaient que passer par la Belgique, ils vont en Angleterre, mais la grande majorité, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Et de tous âges, il y a tous ceux qui quittent les centres juste avant de devoir être expulsés parce qu'ils savent qu'ils n'auront plus leurs papiers. Et le rédacteur ou la rédactrice de cet article disait que d'après les enquêtes qui avaient été faites, la plupart de ces enfants sont cadenassés par les milieux criminels. Et on s'est dit, ça c'est quand même terrible ça, que dans nos pays, il y a des enfants comme ça par centaines qui disparaissent chaque année. Et nous sommes tous indifférents, on ne le sait même pas.
Alors ça, c'est le propre du cinéma des Dardenne. On est dans la fiction, mais on est en même temps à la lisière de la réalité. Comment les deux frères ont choisi de raconter cette histoire, Amélie ?
Bah effectivement, c'était une question qu'ils se sont posée. Hein, et donc, ils ont choisi de le faire par le truchement d'une histoire d'amitié entre les deux enfants. Une complicité folle qu'on entend un petit peu dans la bande-annonce et dans les extraits qui vont suivre, qui révèle aussi autre chose de leur condition. Cette fois, c'est Luc Dardenne, pardon, le plus jeune, qui raconte.
C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe que des enfants migrent volontairement. Et ils connaissent une solitude assez particulière et insupportable qui provoque des maladies aussi nouvelles. On en a repris une dans notre film qui est les angoisses de solitude de Lokita, mais aussi des maladies du sommeil où les jeunes sont en perpétuelle somnolence. Ils sont là sans être là, ils ne veulent plus être nulle part. Enfin, ils ne savent plus où ils sont, ils ne veulent plus être. Là, on s'est dit, tiens, pourquoi l'amitié ? Bien, parce que tout migrant a besoin d'un ami, d'une amie, de la famille, de quelqu'un qui parle sa langue quand il arrive dans un pays étranger. Donc là, ça nous a confortés dans notre choix d'une amitié indéfectible, pas une amitié qui servirait à une intrigue avec la trahison, etc. Non, leur amitié est inentamable et c'est ça qui est beau. C'est au point que l'un se sacrifie pour l'autre à un moment donné.
Qu'est-ce que tu penses de mon idée de voler de la drogue ?
J'ai pas envie que tu deviennes un dealer et que t'arrêtes l'école.
J'arrêterai pas. Je ferai ça vendredi soir, après le travail pour Bétim.
Et tu vas la vendre à qui ?
Au videur de la boîte de nuit qui n'aime pas Bétim.
Et s'il parle ?
Je lui vendrai pas cher, il parlera pas.
On la sent très protectrice, Lokita. On pourrait presque croire qu'ils sont frères et sœurs.
Et c'est justement la stratégie qu'ils adoptent tous les deux, car leur but, évidemment, c'est d'obtenir leurs papiers. Tori, le petit garçon, a déjà les siens, mais pour Lokita, c'est plus compliqué. Alors, ils s'inventent un lien de parenté pour faire avancer leur dossier. Malheureusement, l'administration belge n'est pas dupe.
Pourquoi ma sœur ne peut pas avoir ses papiers ?
Tu es qui, toi ?
Tori, le frère de Lokita.
Demande à Lokita, elle le sait. J'ai une réunion, excuse-moi.
Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir ?
Parce que toi, tu étais un enfant sorcier persécuté, ton dossier le prouve.
Mais elles aussi, elles ont essayé de la tuer parce qu'elle m'a aidée. C'est la même chose.
Son avocat a proposé de faire un test ADN pour prouver qu'elle est bien ta sœur. Je crois que c'est la meilleure solution. Excuse-moi, mais je dois y aller.
Madame, qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, sans elle? Pourquoi vous lui donnez pas ses papiers?
J'aimerais bien, mais je peux pas.
Alors, on ressent ici la violence neutre de l'administration, comme l'appellent les frères Dardenne. Mais ça n'est pas la seule violence qui est évoquée dans le film. On entendait tout à l'heure parler de drogue, de milieu criminel. Lokita, on l'a dit au début, c'est une adolescente, une jeune femme de 16 ans. Donc, sans en révéler davantage, Marjorie, vous savez comme moi qu'être une femme donne lieu aussi à d'autres formes de violence, surtout dans ces conditions-là. En tant que jeune comédien, moi, je me suis dit que ça ne devait pas être simple de jouer tout ça à 12 et 16 ans. Et j'ai voulu savoir comment les réalisateurs avaient travaillé avec Pablo Shields, hein, qui joue Tori, et Joely Mbundu, qui joue Lokita.
On a demandé aux parents, parce que ce sont des mineurs, donc voilà, ils en ont parlé entre eux. Donc nous, un peu comme à tous les acteurs, on ne donne pas d'interprétation, on ne fait pas d'italienne, comme on ne répète pas autour d'une table où chacun lit son dialogue, etc. On ne fait pas ça. Mais s'il y a une question, on y répond. Et il y en a eu très peu. Et quant aux scènes parfois difficiles à jouer, surtout pour Joely, qui interprète Lokita, on est quand même dans le jeu. On s'amuse en faisant un film. Il y a des moments difficiles, il y a des plans de 7 minutes, il y a tout un texte à apprendre et tout, mais on s'amuse. Et la seule chose que Joely a dit, c'est bon, « j'ai perdu mon innocence ». Le film m'a modifié quand même. Mais je crois qu'ils ont compris d'une certaine façon, à leur façon, quoi. Et puis quand ils ont vu le film pour la première fois à Cannes, le garçon était surpris quand même, était surpris.
Donc maintenant, avec mon frère, on va vous chanter une chanson italienne. Quand on est arrivé en Sicile, il y a eu une femme, Paola, qui venait nous voir dans notre centre et elle nous a appris une chanson de chez elle.
Padre compro
alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre compro.
Alors moi, je connaissais la version d'Angelo Branduardi, celui qui chantait
Angelo Branduardi, oui.
Ah, formidable ménestrel d'origine italienne qui chantait la fois en italien et en français. Alors, cinématographiquement, Amélie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec ce film?
Eh bien, c'est une caméra, en fait, c'est une signature des frères Dardenne hein, qui bouge à chaque fois, qui suit les personnages donc à l'épaule et à la main. Et ça donne en fait un peu de corps au personnage, au protagoniste, au comédien aussi, qui peut résister un petit peu au cadre et qui se replace comme ça. Et c'est en tout cas... très beau.
Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne à découvrir donc au cinéma le 5 octobre prochain. Merci Amélie. Direction Bruxelles à présent avec vous, Jean-Jacques Herry, pour découvrir l'exposition Épiderme, une exposition imaginée et construite par l'artiste plasticienne franco-gabonaise Myriam Mihindou. Il s'agit en fait d'une expérience immersive où le visiteur rencontre physiquement l'œuvre qu'il découvre, libre à lui d'y faire vagabonder ses sens pour à la fois se sentir vivant et en même temps donner à l'œuvre tout son sens, justement. On a donc tout un programme à découvrir avec vous. Vous allez nous expliquer ça, Jean-Jacques.
Oui, d'abord, je vais vous demander de mettre des surchaussures ou carrément de vous mettre en chaussettes.
Voilà.
J'adore ça, ma chérie.
Ouais, parce qu'on se balade pas comme ça dans une œuvre d'art, en fait. La visite a lieu dans une salle rectangulaire au mur blanc et lorsqu'on y rentre, on a face à nous une structure en contreplaqué surélevée de quelques centimètres par rapport au sol et sur laquelle on peut monter. On est alors attiré par les pièces en tissu qui se trouvent sur le sol. Ce sont des draps boudinés et emplis de sable qui forment des structures molles et qui invitent les sens. Après quelques hésitations, on a envie de toucher, on a envie de s'allonger et c'est comme ça que l'interaction a commencé pour Elliot et Julia que j'ai rencontré assis sur une œuvre d'art.
Bah, ça se passe très bien, c'est super chouette. Je suis en train simplement de toucher la texture à travers le tissu du sable et tu vois, c'est agréable. C'est plus venu par après, parce qu'au début je me suis juste assis, mais en ayant cette idée que l'art c'est un peu précieux, qu'on peut pas toucher tout ça, et donc un peu l'impression de profaner une œuvre. Et là, je sais pas, juste je me laisse aller à quelque chose d'un peu naturel comme ça, jouer avec le sable, quelque chose d'un peu enfantin, ouais.
Moi, je me suis carrément couchée dessus au début. Mais on n'a pas eu à m'inviter beaucoup. C'est des formes qui sont hyper agréables et des textures qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc avec des formes et tout qui rappellent le sable. Enfin, c'est marrant parce que quand on parle, il y a un enfant devant nous. On se sent un petit peu pareil à rouler sur le sol. Et
qui lui aussi prend possession de l'œuvre d'art.
Oui, exactement. Donc on se sent un petit peu pareil, quoi.
Oui, bah oui, je pense que c'est une bonne explication. Je pense que je pose moi la question de si quelque chose est précieux et de si c'est pas précieux, il faut pas le toucher, il faut l'expérimenter, ouais. Et moins l'intellectualiser peut-être, et plus le ressentir.
Plus le ressentir, donc j'imagine que Jean-Jacques, vous-même, vous avez aussi été tenté de le faire.
Oui, d'ailleurs, je vais pas vous mentir, je me suis installé sur une de ces fameuses structures molles au contact de la matière tissu pour discuter avec Guillaume Desanges. Il est le commissaire de l'exposition.
On peut reconnecter peut-être avec des matières, reconnecter avec des environnements, c'est important aujourd'hui. Et cette pièce-là que nous avons devant nous, qui est donc un drap, on peut s'asseoir si vous voulez.
C'est vrai qu'on n'est pas habitué à s'asseoir sur une œuvre.
On n'est pas habitué à s'asseoir sur une œuvre et puis surtout à pouvoir toucher les œuvres. Alors ça me plaît beaucoup parce que on a eu tendance, notamment en Occident, à penser des séparations. L'œuvre d'art ne devait pas être touchée, l'œuvre d'art était un peu, j'irais presque, sacralisée par l'institution.
Oui, l'image qu'on a, c'est on va voir la Joconde, on regarde et on reste devant.
Absolument,
quoi.
Voilà. Alors que là, on a des œuvres qui sont des sculptures. Ce sont des draps superposés, trempés dans des infusions, dans des teintes comme ça, de matériel. Et puis ces draps ont des poches comme ça cousues dessus avec une matière qui est du sable, un sable précis. On est amené à toucher, à masser un peu. Et à travers cet épiderme, qui est le titre de l'exposition, du tissu, sous le tissu, on a une relation avec un corps vivant, celui du sable. Et là, on a une fonction qui est vraiment une ambition de cet artiste, une fonction presque un peu thérapeutique, de nous faire prendre conscience qu'on est avec humilité, qu'on est dans des environnements et qu'on peut toucher des choses, qu'on peut prendre une relation physique avec la matière.
Et en fait, tout l'objet, tout l'enjeu autour de ce travail de Myriam Mindou, c'est celui d'une reconnexion à l'environnement par les sens, essentiellement par le toucher, toucher une surface, toucher un épiderme, et c'est ce qui va permettre l'accès à quelque chose de plus lointain et d'un peu caché aussi. Encore faut-il prendre le temps de se poser et d'aller chercher ce quelque chose.
Alors justement, Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il faut faire pour profiter au mieux de cette expérience sensorielle? Autrement dit, comment le visiteur peut trouver sa place dans une exposition comme celle-ci, dont il fait en fait, lui-même totalement parti?
Eh bien, j'ai posé la question directement à l'artiste Myriam Mindou. Écoutez sa réponse.
Bon, déjà, il sait qu'il peut occuper l'espace, que ce sont des sculptures molles, mais qu'il peut entrer dedans. Et je laisse libre cours à son imagination et à son approche aussi, parce que moi, je n'aime pas faire autorité sur l'œuvre. Donc moi, je dépose une proposition et ensuite le spectateur sait qu'il peut s'approprier cet espace-là. Ce qui m'intéresse, c'est comment il va le faire. Pas ni pourquoi, ni voilà, mais en tout cas, c'est sa présence dans l'espace qui fait acte, je dirais, de l'œuvre et qui l'active et qui a été en tout cas l'objet d'une motivation pour moi de les produire. Ben, il faut l'occuper, autrement l'œuvre n'a pas de raison d'être. En quelque sorte. Voilà. On parle beaucoup, en théorie, on va dire, des choses et de notre rapport au vivant et l'environnement. Là, ça permet de les incarner, de les toucher, de les ressentir et peut-être de revenir à, je dirais, une sorte d'enfance du rapport, je dirais, à la matière.
Alors c'est ce qu'on a entendu il y a un instant déjà, Jean-Jacques, les premiers visiteurs que vous avez interrogés parlaient justement de ce retour à l'enfance par les sens. Ça veut dire que si on veut jouer le jeu de cette exposition, il faut retrouver ses yeux d'enfant et dépasser ses inhibitions d'adulte?
Alors il faut retrouver ses yeux d'enfant, mais aussi ses mains d'enfant. Pour s'en convaincre d'ailleurs, il suffit d'aller faire un tour au fond à gauche de la pièce. Là, il y a un bac à sable. Alors c'est pas exactement les bacs à sable que l'on peut trouver dans les parcs pour enfants, mais quand même, il y a un sable très blanc où l'on peut dessiner, tracer des sillons avec ses doigts. Et les gens qui ont pris place près du bac sont presque dans une posture méditative. Et à votre avis, quel souvenir est-ce que la matière fait remonter chez ceux qui plongent leurs mains à travers les grains de sable?
Oh bah là, les vacances à la plage quand ils étaient petits, les châteaux de sable.
Des souvenirs d'enfance, effectivement.
Un plaisir enfantin. C'est vraiment le jeu. Moi, ça me rappelle mes vacances. J'aurais envie d'aller dedans, de faire un château de sable, vraiment de plonger dedans.
Et ce qui est intéressant, c'est que cela marche pour Léona, qui a grandi en Belgique et qu'on vient d'entendre, mais ça marche aussi pour Yuki, qui, elle, est japonaise.
Je me sens comme un enfant. Je me rappelle quand j'étais un enfant que je jouais avec tout et n'importe quoi, sans me poser de questions.
En revanche, Yuki porte aussi un regard amusé sur l'exposition et sur l'interaction qui se joue sous ses yeux. Là, c'est une différence culturelle qui apparaît tout simplement parce que Yuki n'a pas l'habitude de voir des Occidentaux passer autant de temps sur le sol. Ce qui apparaît clairement, c'est un rapport à l'espace et à l'environnement qui n'est pas le même selon les régions du monde.
C'est très intéressant parce que voir des gens sur le sol, c'est quelque chose de normal pour nous. Dans notre culture, on s'assoit par terre, on s'allonge sur le sol dans les maisons. Mais d'habitude, je ne vois jamais les Européens faire ça.
Donc vous voyez beaucoup de choses à voir dans cette exposition Épiderme, une exposition à voir, à toucher et qui réapprend à prendre son temps pour s'approprier son espace et son environnement. Une jolie expérience, un beau travail de Myriam Mindou et c'est visible à Bruxelles jusqu'au 3 décembre 2022.
Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors, vous allez rester avec nous puisqu'on va parler à présent de quelqu'un qui a chanté la ville où vous vous trouvez en ce moment, Bruxelles évidemment.
Il y a un court-circuit dans mon esprit. Save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit. Oh, save me, save me.
Et ce chanteur qui a si bien chanté Bruxelles, c'est évidemment Arnoud. Vous l'avez reconnu à sa voix grave et même rock. Marjorie, cette semaine, vous allez nous faire découvrir OPEX, son dernier opus. Arnaud qui, rappelons-le, nous a quittés au mois d'avril.
Et ce disque est vraiment son chant du cygne, comme on dit en France, de la plus belle et de la dernière création réalisée par un artiste avant de mourir. Alors Arnaud nous laisse OPEX, effectivement, comme un cadeau tombé du ciel. Alors disons-le tout de suite, c'est un grand cru. Hein, chaque vers s'écoute, se savoure. Il y a du rock, de la grivoiserie.
Il fallait une analogie.
Du surréalisme, une reprise, des collaborations, notamment avec ce prémonitoire court-circuit dans mon esprit, avec Sofiane Pamar qu'on entend au piano.
Sofiane Pamar avec qui il avait enregistré un album piano-voix qui s'appelait Vivre.
Oui, c'était en 2021 et Arnaud, à l'époque, se savait déjà condamné. Sofiane Pamar m'a raconté que leur collaboration a toujours été un peu teintée par la mort et m'a parlé de ce qu'elle lui a apporté.
Il m'a transmis déjà le rapport au temps. Il dit tout le temps, hier n'existe plus, demain n'existe pas, il n'y a que le présent en fait. Pour lui, il est vraiment que dans le présent. Il était très en paix en fait, même avec son état de santé.
Même avec son état de santé, donc.
Mais oui, et même si le disque est hanté par le thème de la mort, hein, pour OPEX, c'est toujours teinté d'humour, d'inattendu, comme sur ce duo improbable où j'ai failli tomber de ma chaise quand même.
Un jour, le bateau s'en va, toi, fais l'océan. Et seul, le cœur plein d'amour, une fille. Attends.
Le marais lui a dit, n'oublie pas, je t'aime.
L'hiver et le printemps, elle attend quand même.
Elle voit un oiseau blanc se poser près d'elle. Qui porte quelques mots au creux de son aile.
Alors, est-ce que vous reconnaissez qui chante Jean-François? Vous ne répondez pas,
ah,
vous
oui,
vous trébuchez comme un fou.
Évidemment, non, elle est venue dans l'émission, elle est venue dans VMDN il y a quelques années. Elle est pas du Nord, elle est du Sud, c'est une demoiselle d'Avignon.
Absolument.
Mais oui, c'est Mireille Mathieu.
Et oui.
Incroyable.
Et alors,
Mireille Mathieu et Arnaud, quel duo.
Mais oui, parce que figurez-vous qu'Arnaud rêvait de chanter avec cette légende vivante. Malheureusement, ils n'ont pas pu se rencontrer. D'ailleurs, il est mort pendant que Mireille Mathieu était à Avignon en train d'enregistrer sa partie de la chanson.
Et c'est fou parce qu'elle s'appelle justement La Paloma Adieu.
Eh oui. C'est comme un clin d'œil d'Arnaud avant son envol. D'ailleurs, sans être funèbre, tout le disque est plein de petites références cachées et de confidences d'Arnaud. OPEX, c'est le nom de son quartier natal à Ostende. Mais c'est à Bruxelles qu'il a enregistré ce dernier album, avec ses proches, alors que la maladie le rongeait. Il fallait faire vite. Damien Vazel, directeur de la maison de disques Pias Belgique, en témoigne.
C'était pas un artiste qui aimait faire de nombreuses prises, 3 prises, 4 prises. Donc ça, c'était pas en soi un problème que d'enregistrer vite, parce que c'était un peu sa spécialité. Par contre, c'était peut-être pas difficile émotionnellement pour lui, mais c'était compliqué parfois sur le plan physique. On entend d'ailleurs dans le disque par moments des fatigues sur la voix, et c'est probablement ça aussi qui participe à la poésie et à la beauté de ce dernier album. C'est cette espèce de bataille que Arnaud livrait avec son corps en studio.
Et Mirko Banovic, son bassiste et compagnon de route pendant des années, m'a raconté dans quel état d'esprit Arnaud et ses musiciens ont enregistré OPEX.
C'était très émotionnel pour tout le monde d'être ensemble, de travailler, de parler à propos de musique, de parler à propos de certains sujets dont vous pouvez entendre dans les textes. Donc, chaque fois qu'on finissait un morceau, chaque fois qu'on terminait quelque chose, Arnaud était content, même très content du résultat. Chaque fois, on se réalisait que bon, voilà, c'était la dernière fois qu'on allait faire ce morceau ensemble.
Effectivement. Alors, vous nous parliez aussi de reprises, Marjorie.
Oui, Arnaud reprend le langoureux et très rock One Night With You d'Elvis Presley. Là aussi, c'est très symbolique parce que c'est le morceau qui, enfant, lui a insufflé l'envie de chanter jusqu'à ce que la mort lui coupe le sifflet. Mais encore que, Arnaud siffle sur le dernier morceau d'OPEX, où son frère Peters l'accompagne au saxophone. C'était la première fois qu'ils enregistraient ensemble. I'm not gonna whistle, qui veut dire « Je ne sifflerai plus jamais », Damien Vazel.
Il faut savoir que lorsqu'on appelait Arnaud et qu'on tombait sur sa boîte vocale, le message d'absence, c'était lui qui sifflait. Et donc je pense que d'avoir choisi de terminer cet album par ce titre est un dernier clin d'œil d'Arnaud à la vie et à ses proches.
Avec le vent, je prends le soleil comme mon amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Mais le vendredi, le tango s'en bat. Hier, c'était le passé. Aujourd'hui, la vérité.
Oui, le tango, ce qui fait aussi penser à Léo Ferré, le temps du tango qui est disparu. Arnaud, grand poète, infiniment touchant pour cette mélancolie toujours pudiquement enrobée d'humour, ne sifflera plus jamais. Mais on peut se consoler un peu avec ce dernier opus entêtant.
Et le plus important, hier, c'était le passé. Aujourd'hui, la vérité. Hier, c'était le passé, aujourd'hui la vérité.
OPEX, le dernier album du chanteur Arnaud, disponible chez Piace. Merci Marjorie, merci également à Jean-Jacques et Amélie. C'était un plaisir d'être avec vous tous les trois et c'est aussi la vérité. Dans un instant, le journal sur RFI. Merci à tous de votre fidélité. Ça rime avec vérité d'ailleurs. Lundi, on va au théâtre de l'Atelier pour une pièce intitulée Les Enfants et vous m'en direz des nouvelles.
C'était le passé, aujourd'hui la vie.